Salut, c'est Nicolas Gauvry pour Scepticisme Scientifique, le balado de la science et de la raison. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème qui m'est cher parce que c'est mon thème de recherche depuis des années. Je crois qu'on en a déjà parlé un petit peu plusieurs fois, mais vous allez voir, il y a du nouveau, il y a plein de choses à raconter encore. C'est la complexité. Ah, alors les amoureux, les fanatiques des écrits de Jean-Paul Delahaye, je sais qu'il y en a pas mal parmi les rationalistes, ont sûrement déjà lu des choses, entendu des choses là-dessus, sur la complexité. Et puis, encore une fois, je crois qu'on a déjà parlé un petit peu sur ce balado une fois de temps en temps. Mais voilà, on va voir aujourd'hui comment la complexité s'applique à la psychologie. Ça, c'est quelque chose que Jean-Paul Delahaye ne traite pas souvent, bien qu'on ait travaillé là-dessus ensemble, en fait, plusieurs fois. Voilà, donc je vais peut-être d'abord vous expliquer un tout petit peu pourquoi la notion de complexité, c'est-à-dire dire que quelque chose est complexe ou simple, est important en psychologie, pourquoi ça peut jouer, pourquoi c'est utile. Et puis, je vous expliquerai les grandes lignes de ce qu'est une des mesures de la complexité qu'on appelle la complexité algorithmique. Vous verrez que c'est très intéressant pour notamment faire le lien avec le hasard. Eh bien oui, c'est mon thème, le hasard. Et puis on verra on discutera de quelques points en psychologie où ça a été utilisé. Vous verrez que c'est assez varié, que la complexité, c'est utile pour comprendre les structures du langage, pour comprendre comment fonctionne notre mémoire à court terme, pour comprendre aussi pourquoi pas. Et donc là, évidemment, ceux qui nous suivent sur Facebook ont vu ça très récemment, sûrement. Et on vient de publier avec deux collègues suisses qui sont Sébastien Dieguez et Pascal Wagner-Egger, un papier qui utilise la complexité de Kolmogorov, et c'est pour ça que ça m'intéressait beaucoup, mais qui est en psychologie sociale, en fait, puisqu'il s'agit d'étudier les croyances aux théories du complot. On y revient tout à l'heure. Alors voilà, tout commence peut-être quand on s'aperçoit que dans la vie, on est capable de prévoir l'avenir. Alors je ne parle pas de précognition, évidemment. Je vous parle de choses beaucoup plus simples et que nous rencontrons tout le temps, qui consistent à prédire ce qui va se produire dans la seconde qui suit. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps dans la vie. Je vais prendre juste un exemple. J'avais pris dans une conférence, parce que ce que je vous raconte ici, aussi pour situer le contexte, en fait, ça correspond à une conférence que je vais donner dans quelques jours, à peu près une semaine, en anglais. Alors évidemment, en anglais, ce sera beaucoup moins clair, avec un accent à trancher au couteau. Mais voilà, donc je vous en fais une version en français, allongée, plus fun, avec un peu de musique, mais du coup, il n'y a pas l'image. Alors, pour illustrer ce que j'étais en train de vous raconter, là, qu'on arrive à prédire ce qui se passe quelques secondes dans l'avenir, j'avais pris une image trouvée sur Internet d'un joueur de baseball qui est en train de sauter. Alors, sur l'image, il est en l'air, la main tendue, et visiblement, il va réussir à attraper cette balle qui arrive à toute vitesse vers son gant. Et je commence en expliquant, voilà, cette image-là, et le baseball en général, c'est une preuve que nous sommes capables de prédire l'avenir, et non seulement nous sommes capables, mais nous le faisons en permanence. C'est quelque chose qu'on fait depuis l'enfance jusqu'à très tard. Pourquoi je dis ça ? Parce que si vous voyez une balle arriver, que vous ne savez pas ce qu'elle va faire, vous ne savez pas prédire sa trajectoire, et vous ne voyez pas qu'elle va probablement suivre à peu près une parabole, si on néglige les frottements de l'air. Eh bien, vous n'êtes pas capable d'attraper la balle, tout simplement parce que si vous êtes obligé d'attendre qu'elle soit au niveau de votre main pour placer la main correctement, ça ne marchera jamais. Donc le fait qu'on soit capable d'attraper une balle et de faire toutes sortes d'autres choses, de comportements qui sont adaptés dans la vie de tous les jours, c'est la preuve que nous sommes capables de prévoir au moins quelques secondes à l'avance ce qui va se produire dans donc un avenir proche. Et comment ça fonctionne? Comment est-on capable de prédire ce qui va se produire? Eh bien, si vous imaginez ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui attrape une balle, sans, il n'y a pas besoin de sauter, hein, il suffit de tendre la main, on vous lance quelque chose, vous tendez la main pour l'attraper. Comment vous avez fait ça? Eh bien, vous avez en quelque sorte vu dans votre tête ce qui allait se passer dans l'avenir. On prévoit de cette manière, en visualisant mentalement, alors je dis visualiser, ce n'est pas nécessairement une image au sens réel du terme, mais on vous voit dans sa tête, on se joue en quelque sorte dans sa tête la suite du film dont on a vu le début. Eh bien, ça, c'est ce que les psychologues travaillant sur ce sujet depuis des années, des dizaines d'années, appellent des modèles. On a des modèles internes, des modèles implicites, c'est-à-dire qu'on suit des règles. Exactement, c'est le même sens du mot modèle que lorsqu'on parle de modèle en science. Un modèle en science, c'est quoi? C'est une représentation simplifiée de la réalité qui permet de faire des prédictions. Eh bien, on a exactement la même chose dans la tête. On est capable d'imaginer ce qui va se passer. Et par exemple, imaginez, vous tenez un verre, vous êtes capable de visualiser ce qui va se passer si vous lâchez le verre. Vous voyez qu'il va tomber, qu'il va probablement se casser, et que voilà, vous savez comment les morceaux vont s'éparpiller à peu près, etc. Voilà, tout ça s'est fondé sur des modèles que nous construisons et que nous avons dans la tête. Ces modèles, on les retrouve aussi chez les animaux, ça fonctionne de la même manière, c'est pas spécifiquement humain, cette histoire-là. Mais on a ces modèles en tête, et c'est grâce à ça qu'on peut prédire l'avenir au moins quelques secondes à l'avance, et c'est grâce à ça que, du coup, on peut avoir des comportements adaptés, puisqu'on est capable, par exemple, d'attraper une balle, même si ce n'est pas le plus important dans la vie. Alors, d'où viennent ces modèles? Comment ils sont construits? Comment ils sont raffinés, révisés continuellement au cours de la vie? Eh bien, il y a au moins un élément que les... Alors ça, on en avait déjà parlé, j'en suis à peu près certain, quand j'avais évoqué la psychologie de l'enfant. Mais c'est un élément important qui nous permet de construire des modèles. C'est ce que Elisabeth Spelke appelait les core knowledge, c'est-à-dire les connaissances de cœur, centrale, je ne sais pas comment on peut dire exactement. Enfin, voilà, une base de connaissances, je vais vous expliquer ce que ça, ce sera plus simple. C'est une base de connaissances qu'on observe très très tôt chez les enfants et dont on pense que possiblement elles sont même innées. Alors quel genre de connaissances? C'est par exemple des connaissances d'ordre physique. On sait que intuitivement, très très tôt, et on observe ça chez des enfants de quelques mois et dans certains cas de moins que ça, de quelques jours ou semaines, on sait très tôt qu'il y a de la gravité, qu'un objet solide ne peut pas traverser un autre objet solide, que la trajectoire d'un objet est continue. Et tout ça, on arrive à le tester chez des enfants très jeunes. Vous vous souvenez, je vous avais parlé de la méthode pour faire ça. On présente des scènes à des enfants, donc des bébés très jeunes, et on mesure, qu'ils ne savent pas encore parler, on mesure le temps qu'ils passent à fixer la scène. Le temps de fixation est une mesure de la surprise des enfants. Et plus ils sont surpris, plus on peut dire que ce n'est pas ce à quoi ils s'attendaient. Et donc, ils avaient prévu quelque chose et c'était autre chose. Alors un exemple, c'est vous avez une petite voiture en plastique sur une table et puis on pousse la voiture jusqu'au bord de la table et ensuite il y a deux situations, soit la voiture tombe par terre, soit elle continue à avancer en ligne droite, apparemment dans les airs. Alors évidemment il y a un truc, hein, c'est un truc de magicien. Et bien quand on montre ça à des enfants très jeunes de quelques mois, et bien quelques semaines même, ils sont surpris, ils sont plus étonnés de voir la voiture rester en l'air que la voiture tomber. Et on a pu déterminer comme ça un ensemble de connaissances de base que les enfants ont très très tôt, y compris en mathématiques. Là, je vous donne un exemple en physique, mais il y en a en biologie, il y en a en psychologie et il y en a aussi en mathématiques. Voilà, donc un ensemble de connaissances de base, peut-être innées, en tout cas très précoces, sur lesquelles probablement se fondent certains des modèles que nous utilisons dans la vie de tous les jours, modèles implicites et internes que nous utilisons pour prédire l'avenir. À quelques secondes, encore une fois. Hein. Il ne s'agit pas de prédire ce qui va se passer l'année prochaine. Mais ça n'explique pas tout. Ça n'explique pas tout parce que, évidemment, maintenant que vous avez utilisé pas mal de téléphones portables, par exemple, si je vous présente un nouveau modèle que vous n'avez jamais vu, vous serez capable, par analogie, et même si la disposition graphique est différente, de comprendre assez rapidement comment il fonctionne. Là encore, vous avez construit un modèle du fonctionnement des téléphones portables actuels. Voilà, et ça vous permet, là encore, de prédire des choses et de faire fonctionner un appareil que vous n'avez jamais vu. Et ça, évidemment, ça n'est pas inné. Alors la question qui se pose, et donc quand c'est pas inné, pardon, ça veut dire que ça a été créé par l'expérience, et donc fondé sur nos expériences de vie, eh bien on construit, on raffine, on améliore continuellement les modèles qu'on a, et on avait parlé du fait que ces modèles sont des modèles probabilistes, très sans aucun doute. Hein. Il y a beaucoup d'éléments qui laissent penser qu'effectivement ce sont des modèles probabilistes. Alors quel problème se pose quand on doit construire des modèles? Il se pose exactement le même problème dans la vie de tous les jours que quand on fait de la recherche. C'est-à-dire que pour chaque ensemble de données dont on dispose, eh bien, il y a en fait une infinité de modèles qui correspondent. Pour chaque, si vous voyez ça graphiquement, à chaque fois vous avez des points et que vous voulez faire passer une courbe par ces points, alors ça c'est une image qu'on prend souvent parce que les points ça représente quelques valeurs qu'on a observées de deux grandeurs, disons x et y, et puis la courbe c'est la fonction qu'il y a derrière et qui permet d'expliquer tout ça. Et bien quand vous avez un certain nombre de données, il y a toujours une infinité de modèles qui conviennent et il faut choisir le bon. Et le bon, évidemment, vous connaissez tous parce qu'on est entre sceptiques, c'est celui défini par le rasoir d'Occam, c'est-à-dire le plus simple. Le meilleur modèle, c'est le plus simple. Alors en science, quand on fait des modèles statistiques, il y a cette notion de simplicité, on mesure la simplicité des modèles. Le problème, c'est qu'il y a plein de manières de mesurer cette complexité, que tout le monde n'est pas d'accord, et donc il y a bien des cas où en fait les scientifiques juste ne sont pas d'accord parce que sur plusieurs modèles, ils ne sont pas d'accord sur lequel est le plus simple. Voilà. Et encore, je passe sous silence le fait que les modèles, en général, ne collent pas parfaitement aux données, ils collent à peu près aux données, et donc il y a aussi cet élément qui rentre en jeu. Néanmoins, voilà, l'idée générale est, ça, est celle-ci, l'idée générale, c'est que parmi tous les modèles possibles, on va choisir le plus simple qui explique les données, et que c'est ce qu'on fait en science, ce qu'on essaye de faire en science, en tout cas, et les psychologues disent aujourd'hui, bah, c'est aussi ce qu'on fait tous les jours, lorsqu'on pense, lorsqu'on perçoit, c'est un niveau très très élémentaire de la cognition, c'est-à-dire c'est complètement inconscient, et déjà la perception, c'est une analyse où on fait un modèle de la réalité à partir de ce qu'on observe, et le modèle qu'on utilise est normalement le plus simple. Ça, on en avait peut-être déjà parlé, mais cette manière de voir les choses explique énormément, par exemple, d'illusions d'optique qu'on peut comprendre comme simplement le modèle qui convient le mieux aux données qu'on a sous les yeux n'est pas le bon, mais c'est quand même le plus simple. Et donc c'est pour ça qu'on a celui-ci en tête, et ça explique beaucoup d'illusions d'optique. Si vous voulez aller plus loin, je vous reconseille encore cet éternel cours de Stanislas Dehaene au Collège de France qu'on trouve en ligne sur Internet assez facilement et qui a traité de la perception et de la pensée du cerveau statisticien chez les enfants et chez les adultes pendant les années, je crois, 2012-2013. Voilà, vous aurez plein d'exemples de choses comme ça. La capacité à choisir le modèle le plus simple, en fait, c'est considéré depuis très longtemps par les psychologues, avant même qu'on raisonne en termes de modèle, comme un élément important de l'intelligence. Et dans les tests d'intelligence, vous avez parfois ces suites à compléter, ou des matrices, parfois, c'est-à-dire des tableaux à compléter, où en fait, ce qu'on vous demande de faire, c'est de déterminer le modèle explicatif de ce que vous avez sous les yeux le plus simple possible. Je prends un exemple élémentaire. On vous présente la suite 3, 5, 7, et on vous demande ce qui vient après. Alors, évidemment, dans un cas comme ça, ce qui vient tout de suite à l'esprit, la plupart des gens, c'est 9, 3, 5, 7, 9, parce qu'il s'agit des nombres impairs à partir de 3, ou alors parce qu'on est passé de l'un à l'autre à chaque fois en rajoutant 2. Donc, il y a une règle simple qui permet de construire le début de la suite, et si on applique encore ces règles, on arrive à 9. Mais vous pourriez aussi remarquer que 3, 5, 7, 9, c'est le début, 3, 5, 7, pardon, c'est le début de la liste des nombres premiers et impairs. Et dans ce cas, c'est pas 9 qu'il faut dire, mais c'est 11. Eh bien, 11 serait considéré comme une moins bonne réponse par les psychologues. En tout cas, c'est pas celle qui est prévue. Parce que même si ça prouve que vous connaissez des choses compliquées, eh bien, vous n'avez pas sélectionné le modèle le plus simple. Et donc, ça correspond pas à ce qu'on appelle habituellement l'intelligence, même si ça peut être en fait le signe d'un esprit supérieur en quelque sorte. Seulement, voilà, comment fait-on pour tester cette hypothèse que, effectivement, les gens vont choisir les modèles les plus simples, et dans le cas général, c'est un peu compliqué. Il faut pour ça avoir au moins une mesure de la complexité. Et ça, je l'ai dit précédemment, c'est pas si évident. Il y a plusieurs mesures pour les modèles, par exemple, plusieurs mesures différentes. et pas de raison objective de choisir une mesure plutôt qu'une autre. Alors maintenant, on va se concentrer sur un cas particulier, parce que pour les modèles, c'est peut-être trop compliqué, en tout cas, c'est pas dans mon domaine d'expertise depuis ces dernières années. Mais il y a un autre objet mathématique sur lequel on peut utiliser la complexité, et vous verrez que ça a aussi beaucoup d'applications en psychologie, et que c'est du coup très intéressant. C'est voilà, ce qui m'a poussé à faire cette conférence de la semaine prochaine, par exemple. Je parle des suites des suites de symboles. Voilà, on va dire ça comme ça. On va dire des suites de symboles qu'on peut appeler des mots formellement, mais ça peut être des suites de pile ou face, ça peut être des suites de couleurs, ça peut être des suites de lettres ou de chiffres, peu importe. Donc vous pouvez imaginer, par exemple, ce qui se passe quand on jette un dé plusieurs fois. Ou bien pour les couleurs, peut-être vous vous souvenez de ce jeu qui s'appelait Simon. Le Simon, où il y avait quatre petites loupiottes, rouge, verte, il y avait quoi ? Il y avait rouge, vert, jaune, bleu, je crois, disposées en cercle, et puis ça s'allumait, ça. Donc par exemple, la jaune s'allumait, puis la rouge, puis la bleue, et puis il fallait reproduire la suite, donc il fallait à nouveau appuyer sur ce qui venait de sortir. Voilà, bon, ça fait des suites aussi qu'on peut écrire, hein, avec des suites de rouge, vert, bleu, etc. Voilà, on peut appeler ça des mots, on peut appeler ça des suites de symboles. On peut quand même modéliser pas mal de choses comme ça avec cette idée des suites de symboles et appeler ça des mots si on veut. En tout cas, avec ces mots-là, eh bien, il y a une mesure de complexité qui s'impose dans les sciences d'informatique et donc en mathématiques aussi, qui s'impose parce que vous allez voir, elle a vraiment des qualités tout à fait extraordinaires. C'est la complexité algorithmique, qu'on dit aussi complexité de Kolmogorov, parce que ça a été lancé par ce grand mathématicien qui a fondé un peu toutes les probabilités. Alors, je vais le dire très simplement, et puis on ne va pas passer longtemps, parce que ce n'est pas très intéressant de connaître vraiment les détails, mais simplement l'idée est la suivante. La complexité de Kolmogorov d'une suite, c'est la longueur du plus court programme, ça c'est la définition, la longueur du plus court programme qui permet de produire la suite. Alors, on va voir tout de suite sur des exemples ce que ça veut dire. Si vous prenez une suite, donc on va imaginer quelque chose de simple, on va prendre des piles ou faces simplement. Hein, si vous prenez une suite de, mettons, 1000 lancés, et s'il n'y a que des piles, eh bien vous pouvez faire un programme, et si on le dit en français, le programme, ça peut être simplement écrire pile 1000 fois. Voilà, c'est un programme très court. Vous imaginez une petite boucle, voilà, qui fait tourner de 1 à 1000, et puis vous écrivez pile tout le temps. Donc là, on a une complexité très faible, parce que le programme est très court. Si maintenant vous avez une alternance, pile-face, 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 comme ça, qui se répète, là encore, il y a un programme un tout petit peu plus long, qui serait répété 500 fois, écrire pile, puis face. Voilà, c'est un tout petit peu plus long, mais c'est encore une complexité extrêmement faible. Et à l'inverse, si vous avez quelque chose de complexe, où il n'y a pas de structure, il n'y a pas de symétrie, il n'y a rien qui se répète, vous pouvez penser à une suite qu'on obtiendrait vraiment en lançant 1000 fois une pièce, eh bien, il n'y aura a priori rien de spécial à constater, et donc le seul programme qui permettra d'écrire la suite, ce sera en fait de dire « écrire », et puis on met la suite telle qu'elle, donc on sera obligé de refaire toute la suite comme elle est indiquée. Voilà, donc le programme sera très long, parce qu'il faudra au moins les 1000 symboles qui permettent d'écrire la suite, et vous imaginez, bien sûr, on fait ça avec des suites beaucoup plus longues d'un million ou deux millions de symboles, et donc très vite, ben, on obtient des choses extrêmement complexes, c'est-à-dire des programmes extrêmement longs qui sont le signe d'une suite complexe. Et vous voyez la manière dont je l'ai dit, en fait, que j'ai parlé de structure, j'ai parlé de complexité, j'ai parlé de hasard, tout ça est lié formellement avec cette complexité algorithmique. Pourquoi c'est lié ? Parce qu'en fait, avant Kolmogorov, on n'avait pas de bonne définition du hasard. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire qu'une suite infinie, hein, il faudrait une suite infinie, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'une suite infinie est aléatoire ? Ça veut dire qu'elle n'a pas de structure. Et ça veut dire formellement qu'elle a une grande complexité. Voilà, c'est un peu plus complexe. Si vous voulez voir les détails, je vous renvoie par exemple vers les livres de Jean-Paul Delay qui sont très bien faits là-dessus. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est qu'une suite est aléatoire si elle est complexe, donc si elle n'a pas de structure. Et ça revient à dire qu'il n'y a pas moyen de la décrire exactement, brièvement. Ça, c'est la correspondance avec ce que je viens de vous dire sur le programme, parce qu'un programme, d'une certaine manière, c'est une description d'une suite. Et si ça a tellement bien pris, cette définition du hasard, c'est parce qu'en fait, il y a une convergence dans différentes définitions possibles du hasard avec cette définition. C'est-à-dire que quand vous définissez une suite aléatoire comme une suite complexe, eh bien, automatiquement, elle devient, par exemple, imprédictible. C'est-à-dire que quand une suite est complexe, connaissant les, par exemple, 1000 premiers termes, vous ne pouvez pas déduire de ces 1000 premiers termes le suivant. Voilà. Et une autre définition, c'est une suite est aléatoire si on peut faire passer à cette suite toutes sortes de tests pour vérifier qu'elle est aléatoire. Et bien, si tous ces tests vont dire qu'elle est aléatoire. Parmi les tests, il y a par exemple vérifier qu'il y a autant de piles que de faces. Vérifier qu'après un pile, on n'a pas plus souvent pile que face. Et bien, tous ces tests-là donneront un résultat positif pour une suite infinie si elle est complexe au sens de Kolmogorov. Donc pour la complexité algorithmique. Autrement dit, les différentes définitions que vous pouvez avoir en tête du hasard se rejoignent dans cette définition par la complexité. Et donc c'est tout à fait intéressant, et vous allez voir très bientôt là, que ça a des répercussions en psychologie. Alors autre chose de très intéressant, c'est que la complexité algorithmique est liée aussi par une formule. On n'a pas besoin de connaître la formule, c'est pas très intéressant, mais à une autre notion qui est la probabilité algorithmique. La probabilité algorithmique d'une suite, c'est la probabilité de tomber sur cette suite si on choisit un programme au hasard. Vous imaginez, vous avez votre ordinateur, vous écrivez des suites d'instructions au hasard, pas la plupart du temps ça fait rien, ou ça fait planter l'ordinateur peut-être, ça fait aussi des programmes qui s'arrêtent jamais, mais de temps en temps ça fait que le programme écrit quelque chose. Et quand il écrit quelque chose, on regarde ce qu'il écrit, et certaines suites reviennent plus souvent que d'autres. Voilà, si vous écrivez un programme au hasard, vous avez plus de chances, par exemple, de faire apparaître juste un 0, un programme qui n'écrit que des 0 et des 1, on va dire, vous avez plus de chances de faire juste apparaître un 0 et que ça s'arrête, que de faire écrire exactement la suite des 10 premières décimales de pi, par exemple. Et si vous avez 10 symboles, il y a plus de chances d'avoir que des 0, plutôt que la suite des premières décimales, vous n'avez pas de décimales, si c'est en binaire, vous avez compris, que voilà une suite particulière un peu plus complexe. Voilà. Et donc il y a une relation entre cette probabilité algorithmique et complexité algorithmique, et vous allez voir très bientôt, parce qu'on va parler maintenant de la perception du hasard un peu plus en détail, pourquoi c'est important d'avoir ces deux notions de complexité algorithmique qui mesure donc si une suite est complexe ou simple, et probabilité algorithmique qui mesure si une suite a des chances d'arriver par un processus déterministe, par un algorithme, par un programme, mais qu'on ne connaît pas. Et donc, on va tout de suite parler de cette histoire de perception du hasard. Et je vais peut-être du coup me contredire par rapport à des choses que j'ai pu raconter il y a quelques années, parce que j'ai découvert beaucoup de choses avec ce nouveau paradigme, comme on dit maintenant, et la complexité. Quand on demande à des gens de comparer deux suites, donc je vais prendre deux exemples simples, vous pouvez imaginer la suite pile face, pile face, pile face, pile face, pile face, donc une suite de 10 piles ou faces alternées, et puis une autre qui serait pile face, face, pile face, pile pile, face face, pile. Voilà, si je ne me suis pas trompé, il y en a 10 aussi. La première, vous avez vu, c'est simplement une alternance, c'est une suite simple, et la seconde, on ne voit pas de structure spéciale, il n'y a pas de symétrie, il n'y a pas de répétition, on ne peut pas la décrire simplement en quelques mots, et du coup, eh bien, l'une paraît simple et l'autre complexe, l'une paraît aléatoire et l'autre pas. Eh bien, quand on monte ces deux suites donc, à des participants et on leur demande, d'après vous, si je lance une pièce 10 fois, est-ce que la première a plus de chances de se produire ou la deuxième, ou est-ce que les deux ont la même probabilité d'apparition, la plupart des gens disent que la suite complexe a plus de chances de se produire par un tirage aléatoire. Alors ça, on le sait depuis très longtemps, ça a été remarqué, et pendant des décennies, pendant un siècle, ça a été considéré comme la preuve de l'irrationalité humaine et de notre incapacité à penser sous forme de probabilité. Et l'explication donnée par exemple par Kahneman et Tversky était qu'on utilisait un heuristique ou qu'on avait des biais de représentativité en l'occurrence, qui nous faisaient penser que si une suite a l'air plus aléatoire à regarder comme ça, eh bien, elle a une plus grande probabilité d'apparition. Alors pourquoi c'est faux ? Parce que tous ceux qui ont lu une page d'un livre d'introduction pour Habiter le savent, la probabilité de n'importe quelle suite de 10 pile ou face est toujours la même, et c'est toujours 1 sur 2 puissance 10, c'est-à-dire une chance sur 2024. Et voilà. Et pourtant, on répond comme ça, et tout le monde est d'accord, il y a quelque chose de naturel. Même si vous savez que c'est faux, vous avez quand même le sentiment que pile face, pile face, pile face, pile face, pile face, c'est assez bizarre quand on lance une pièce 10 fois, alors que l'autre suite dont je vais parler n'est pas bizarre. Alors comment réconcilier tout ça? Comment expliquer pourquoi tout le monde aurait la même vision biaisée? C'est assez étrange. Et donc je vous dis, dans les années 60-70, il y a eu toute cette théorie selon laquelle toutes nos réflexions étaient basées sur des biais, des heuristiques, et notamment ça donnait des explications pour ce problème particulier de la perception du hasard. Et puis ça a changé, ça a changé récemment avec ce qu'on appelle donc le nouveau paradigme, et c'est là que va intervenir, vous allez voir, la complexité ou la probabilité algorithmique qui apparaît comme le chaînon manquant de tout un raisonnement. C'est pour ça que c'est quelque chose de très important. Alors qu'est-ce qu'on dit dans le nouveau paradigme? On dit en fait non, c'est pas qu'on fait des erreurs ou qu'on a des biais, c'est que quand on nous pose la question n'a pas vraiment de sens pour nous, parce qu'on a toujours cette tendance à chercher les causes et la probabilité des causes, en l'occurrence, plutôt que de s'interroger sur les probabilités d'événements qui se sont déjà produits. Et du coup, quand on vous demande d'estimer, puisque ça revient à ça, d'estimer la probabilité qu'une certaine suite de pile ou de face apparaisse si on lance une vraie pièce, au lieu de ça, ce que vous calculez, c'est la probabilité implicitement. Ce que vous calculez implicitement, c'est la probabilité que la suite ait été produite véritablement au hasard, sachant qu'elle est ce qu'elle est. Et quand on prend les choses comme ça, c'est très différent. Parce que, bien sûr, avec une pièce normale, on a autant de chances d'obtenir les deux suites que j'ai dit. Par contre, avec un programme ou avec un algorithme simple ou un processus physique simple, on a plus de chances d'obtenir quelque chose comme pile face, pile face, pile face, pile face qui se répète, plutôt que quelque chose de complexe comme l'autre suite que je vous ai énoncée. Et mathématiquement, on peut donner un sens formel à tout ça, c'est très simple, ça utilise simplement la formule de Bayes qui nous permet d'exprimer la probabilité que la suite ait été produite au hasard, sachant que la suite est ce qu'elle est, ce qu'on a observé. Et dans cette formule, que je ne vais pas détailler, ce n'est pas très intéressant, mais dans cette formule, il y a plusieurs ingrédients. L'un des ingrédients, c'est la probabilité a priori que vous posez sur le hasard. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez a priori que la suite est aléatoire ou pas? Ça, c'est subjectif, mais en fait, ce n'est pas important. Donc, on va l'oublier assez rapidement. Le deuxième ingrédient, c'est la probabilité d'observer une suite donnée par hasard. Et ça, on sait le calculer. On a dit pour toutes les suites de pile ou de face de longueur 10, c'est simplement 1 sur 2024. Et les psychologues étaient arrivés là, en fait, et ils s'étaient un peu bloqués ici. Pourquoi? Parce que le dernier élément, c'est la probabilité d'obtenir une suite par un processus inconnu, mais qui n'est pas aléatoire, un processus déterministe inconnu. Et cet élément-là, on ne savait pas le calculer jusque très récemment. Des psychologues, des gens qui travaillent en sciences cognitives, comme Griffiths et Tenenbaum, avaient depuis longtemps dit « ça c'est intéressant, ça c'est lié à la complexité de Kolmogorov », mais ils ne savaient pas le calculer. Depuis quelques années maintenant, on a développé des méthodes pour faire des approximations, pour des approximations fiables de ces grandeurs. Et du coup, on peut mesurer, de manière approximative certes, mais enfin on peut mesurer quand même cette probabilité qu'une suite apparaisse à la suite d'un processus déterministe inconnu, et donc on peut donner du sens à toute la formule et calculer véritablement la probabilité que le hasard soit à l'origine d'une suite donnée. Voilà, pour ceux qui ont envie de regarder, si vous utilisez le logiciel R, il suffit d'installer un package qui s'appelle ACSS, ça veut dire Algorithmic Complexity for Short Strings, et qui fait exactement ça, et qui vous permet de calculer la probabilité qu'une suite ait été produite par hasard, connaissant la suite. Et alors si vous regardez par exemple ce que ça donne sur les deux suites de tout à l'heure, si vous tapez pile face, pile face, pile face, pile face, pile face, eh bien vous verrez que la probabilité que cette suite soit due au hasard, la probabilité a posteriori, est de 12%, c'est-à-dire que c'est très improbable qu'une telle suite soit vraiment due au hasard, alors que pour l'autre suite que je vous ai citée, eh bien, il y a 83% de chances qu'elle ait été produite par hasard. Donc là, au contraire, on a une suite qui est probablement produite par le hasard. Alors ça, ça donne une mesure qu'on peut appeler en quelque sorte le véritable aléatoire, la véritable probabilité, je ne sais pas comment on dit ça, véritable chance d'une suite. En anglais, on appelait ça « true randomness ». Et donc on peut mesurer pour ça chaque suite, cette approximation de la probabilité qu'elle ait été produite par hasard. Voilà. Et quand on regarde, maintenant on revient à notre question de départ, puisqu'on avait une théorie en psychologie qui nous disait c'est comme ça que les gens pensent. Les gens pensent en utilisant cette formule de Bayes plus ou moins, et puis ils ont une sorte d'intuition de la complexité, et donc ils ont une sorte d'intuition approximative, mais qui devrait correspondre quand même à la probabilité algorithmique, de cette probabilité qu'une suite soit créée par un processus déterministe inconnu. Voilà, et ça c'est évidemment très important dans la vie de tous les jours. Et par exemple, vous pouvez imaginer que quand vous voyez un événement se produire, vous êtes capable de dire parfois que quelqu'un a dû le faire. Vous voyez, c'est l'argument de l'horloger, si on veut. Vous voyez quelque chose de simple, en fait, au sens de la complexité algorithmique. Vous voyez quelque chose de simple comme une horloge. Pourquoi c'est simple ? Parce que tout s'imbrique bien et que, en fait, on n'a pas besoin de tout décrire pour comprendre le fonctionnement. Ce n'est pas aléatoire, disons. Eh bien, comme ce n'est pas aléatoire, vous dites il doit y avoir quelque chose qui explique ça. Donc un processus déterministe derrière. Et voilà, et c'est là qu'on invente Dieu. En tout cas, quand on fait le test directement, très directement, on montre des suites à des gens et on leur demande est-ce que d'après vous, ça a des chances d'arriver ou pas, ou bien on leur demande est-ce que d'après vous, cette suite est aléatoire ou pas aléatoire, et on fait la moyenne sur 200 personnes, par exemple, et bien ce qu'on obtient, c'est pour chaque suite, une mesure d'aléatoire subjectif. Et quand on compare cet aléatoire subjectif à le véritable aléatoire, si on veut, eh bien on trouve que les deux sont très significativement liés positivement, c'est-à-dire que effectivement les gens perçoivent comme plus aléatoires des suites qui ont une probabilité d'être produites par le hasard, selon le raisonnement que je vous ai présenté avant, plus élevée. Donc il y a bien un lien entre les deux, et c'est une validation assez directe de toute cette grande théorie bayésienne, et aussi, et c'est pour ça que j'adore ça, c'est aussi une application de la complexité algorithmique à la psychologie. Alors tout à l'heure, je vous ai annoncé qu'on allait aussi voir plusieurs domaines de la psychologie où cette histoire de probabilité algorithmique ou de complexité a été utilisée. Donc là, je vais vous citer rapidement quatre domaines de la psychologie où ça a été utilisé récemment. Quatre domaines assez différents, vous allez voir. Et je passerai un peu rapidement, c'est simplement pour montrer que vraiment c'est quelque chose de récurrent. Et puis le dernier thème, vous allez voir, pourra vous intéresser comme sceptique, un peu plus que les autres peut-être. Alors le premier thème, c'est la mémoire à court terme. La mémoire à court terme, c'est ce qui fait que vous êtes capable de répéter une suite que je vous dis. Donc, voilà, dans les tests typiques de mémoire à court terme, on vous dit des suites de lettres ou de chiffres. Donc, par exemple, je vais vous dire 5, 8, 4, 6, et vous devez répéter. Donc, vous devez dire juste après 5, 8, 4, 6. Voilà, si vous avez tout répété la suite, c'est parfait. Sinon, vous êtes trompé. Avec ça, on peut mesurer le plus grand nombre d'éléments que les gens sont capables de retenir. Et donc, en général, ça tourne autour de 7 éléments. Il y a un article très très célèbre en psychologie qui parle du nombre magique 7 plus ou moins 2 et qui dit qu'en gros, les gens arrivent à retenir jusqu'à 7 plus ou moins 2, donc 5 ou 9 selon les personnes, éléments dans ce genre de situation, et que ensuite, on n'y arrive plus, c'est trop long. Voilà. Sauf que ces tests ont été faits avec des suites aléatoires. C'est-à-dire, c'était un peu du genre que je vous ai dit, hein, 5, 8, 4, 6... Par exemple, je ne sais même plus si c'était ça que je vous ai dit, mais enfin, des suites qui, a priori, n'ont pas vraiment de structure, rien de particulier n'émerge. Mais vous comprenez bien que si je vous demande de répéter 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, bien qu'il y ait 12 éléments, tout le monde est capable de le faire très rapidement. Alors l'explication est venue il y a quelques décennies maintenant en psychologie, quand on s'est dit finalement, notre mémoire étant très limitée, hein, puisque si on est capable de retenir que 7 éléments, à court terme, c'est quand même vraiment pas beaucoup cet élément, on a une mémoire extrêmement limitée, et donc pour optimiser un peu cette capacité, eh bien en fait, ce qu'on doit faire, ce que fait notre cerveau, c'est réduire tout ça en utilisant des algorithmes de compression. Et donc, quand je vous dis 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vous repérez tout de suite qu'il y a 1, 2, 3 qui se répète. Et du coup, vous pouvez compresser ça et vous garder en mémoire non pas toute la suite, mais 1, 2, 3, répéter 4 fois, ce qui fait une description courte. Et alors, si vous avez compris le début de l'émission, vous voyez que, évidemment, ça veut dire quoi ? Ça va avoir une description courte qui va nous permettre de retenir mieux. Ça veut dire que la suite est simple, évidemment. Plus la suite est simple, plus on aura de facilité à la retenir. Plus elle est complexe et plus ce sera difficile de la retenir. Alors ça, on l'a testé très directement l'année dernière avec un collègue de Nice et plusieurs de ses étudiants sur vraiment beaucoup de gens. Il y a au total plusieurs milliers d'observations. Et quand on met tout ensemble, on peut regarder un peu parmi les suites, celles qui sont retenues et celles qui ne sont pas retenues. Et qu'est-ce qui permet de prédire que vous allez être capable de retenir une suite, de la rappeler correctement ou pas ? Eh bien, la longueur, ça joue. Donc si on regarde que la longueur, effectivement, les suites les plus longues sont les moins bien retenues. Mais quand on rajoute dans l'équation la complexité, eh bien, on s'aperçoit que la complexité joue beaucoup plus que la longueur. C'est-à-dire qu'une suite complexe, courte, sera moins bien rappelée qu'une suite simple et longue. Donc vous voyez ici, encore une fois, d'abord une application de la complexité, et puis ça sert aussi, en l'occurrence, à appuyer une théorie, un modèle de la mémoire qui dit que en mémoire à court terme, déjà, eh bien, on fait de la compression, quelque sorte. On résume les données, on perçoit des structures et on les utilise pour pouvoir se souvenir de plus d'éléments. Voilà, ça c'est un premier élément. Deuxième intérêt possible de la complexité, donc je vous en ai annoncé trois, on parle maintenant du deuxième, ça sert bizarrement, hein, ça peut paraître très étrange comme ça si je vous le dis, mais on utilise la complexité pour savoir si vous n'avez pas le cortex préfrontal abîmé après un traumatisme crânien, par exemple. Alors pourquoi ça ? Et comment ? Ça utilise ici ce qu'on appelle des tâches de production aléatoire. On vous demande de produire des suites qui aient l'air aléatoire. Donc, par exemple, un exemple très typique, c'est celui des dés. Donc, on va vous dire, imaginez que vous lancez un dé, donc vous dites à peu près 1 par seconde, vous devez dire soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6, et vous allez en faire une centaine comme ça. Et il faut qu'à la fin, votre suite soit à peu près comme on pourrait s'attendre d'un vrai dé. Voilà, alors ça, pour y arriver, d'abord ce que font les gens quand ils essayent de produire ça, c'est qu'ils essayent de faire des suites complexes, donc on évite les répétitions. Si vous venez de dire 1, 2, 3, vous allez éviter 4. Si vous avez déjà dit deux fois de suite 1, 2, 3, vous allez éviter de recommencer, évidemment, parce que ça ne fait pas très sérieux, ça ne fait pas très aléatoire. Et en fait, ce que vous essayez de faire, du coup, sans le savoir, de manière implicite, c'est de donner une suite la plus complexe possible. Alors pour donner une suite complexe, il faut bien sûr un sens de la complexité que apparemment nous avons tous et qui, mais ça reste encore à démontrer, pourrait faire partie des connaissances de base qu'on a dès l'enfance. Mais il faut autre chose. Il faut notamment des processus cognitifs dits de haut niveau, comme par exemple l'inhibition. L'inhibition, c'est cette capacité à bloquer une réponse qui vous vient spontanément à la tête. Voilà. Et par exemple, si je reprends ça, quand vous venez de dire 1, 2, 3, forcément il y a 4 qui vous vient à l'esprit. Ça, c'est pas possible autrement, ne serait-ce que parce que vous avez appris à compter et vous avez répété, 1, 2, 3, 4. Du coup, il faut bloquer ça, parce que si à chaque fois vous avez dit 1, vous pensez 2, et à chaque fois vous avez dit 2, vous pensez 3, votre suite ne va pas être complexe. Et puis voilà, il y a d'autres comme ça, processus de haut niveau, comme l'attention, la flexibilité, qui sont mesures qui entrent en jeu dans cette mesure de complexité. Et on pense que tous ces éléments, inhibition, flexibilité, ça se passe essentiellement dans le cortex préfrontal, ou en tout cas, le cortex préfrontal est un élément important. Et du coup, parfois, on peut faire ça. Voilà, on peut demander à des gens de créer des suites, mesurer la complexité des suites, ou des choses plus élémentaires, comme le taux de répétition ou de chiffres qui suivent, et ça donne une idée du risque de trouver chez eux un cortex préfrontal abîmé. Voilà, donc un deuxième exemple où la complexité est utilisée, cette fois-ci, en neuropsychologie. C'est utilisé notamment, pour ceux qui s'intéressent à la question d'un peu plus près, c'est utilisé notamment assez souvent par Peter Brugger, qui travaille à Zurich, et qui travaille en neuropsychologie dans un hôpital. Il utilise ça avec des patients. Autre thème, troisième exemple d'utilisation de la complexité, mais je crois qu'on en avait déjà parlé, donc je vais être encore plus bref, c'est l'étude de l'émergence des structures dans le langage. Vous savez que dans tous les langages naturels, même s'ils sont très compliqués, alors surtout le français, on n'est vraiment pas gâté pour l'orthographe, malgré tout, il y a quand même des régularités, il y a quand même une structure, et on est très très loin de simplement avoir, par exemple, une correspondance totalement arbitraire et aléatoire entre des suites de sons et des objets. Hein, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a toute une sorte de règles, il y a des principes qui reviennent régulièrement. Et les gens se sont demandé, des chercheurs se sont demandé comment ça se fait, pourquoi il y a des structures comme ça dans le langage et peut-être même des structures universelles. Et une des réponses, une des idées a été que les structures apparaissent parce que le langage se transmet de génération en génération et qu'à chaque génération, on a le problème dont on a parlé juste avant sur la mémoire à court terme, qui est que si c'est trop compliqué, on n'arrive pas à s'en souvenir. Et donc ça fait quoi? Ça fait que lorsque vous transmettez le langage, les règles les plus complexes ont tendance à disparaître parce qu'elles sont oubliées, et à l'inverse, des règles plus simples ont tendance à apparaître parce qu'elles, elles se transmettent facilement. Et donc c'est un phénomène d'évolution. Pour étudier ça, les chercheurs, pour étudier ça de manière expérimentale, parce qu'évidemment on ne va pas refaire toute l'histoire du langage, mais pour étudier ça d'un peu loin, de manière expérimentale, les chercheurs utilisent souvent un paradigme qui s'appelle iterative learning, donc l'apprentissage réitéré, et en fait c'est simplement un téléphone arabe, tout simplement. C'est-à-dire qu'une première personne voit ou entend quelque chose, doit la répéter à une deuxième, qui doit répéter à une troisième, etc. Et lorsqu'on fait ça plein de fois, c'est tout à fait fascinant de voir l'évolution de ce qu'on observe. Alors ça a été fait par exemple avec des points dans des disques très récemment, et donc vous avez, quand vous regardez la suite, c'est vraiment très amusant, parce que vous voyez par exemple dans un premier disque une dizaine de points qui ont l'air vraiment répartis n'importe comment. Bon, il y a un petit paquet un petit peu qui a l'air de se former, bon bref, mais enfin il n'y a aucune structure vraiment. Et puis au bout de 10 reproductions de ce dessin, hein, donc l'idée c'était on montre ça à quelqu'un qui doit reproduire le dessin, et ce que cette personne a fait, on va la montrer à une deuxième personne qui doit reproduire le dessin, etc. Donc c'est un téléphone arabe visuel. Au bout d'une dizaine de répétitions, on voit déjà apparaître très nettement des formes. Et à la fin, on a très clairement une croix et un croissant ou un truc comme ça. Enfin, quelque chose de vraiment reconnaissable. Pour quantifier un peu ça, ce qu'on a l'air de voir, on a l'air de voir que des patterns apparaissent, que finalement, au fil des itérations, les choses sont de plus en plus simples. Pour le quantifier, eh bien, on peut utiliser la complexité algorithmique dont je vous ai parlé, et ça a été fait. Et on l'a fait donc avec des grilles, sur quelque chose, je crois, j'en ai déjà parlé, sinon vous trouverez ça sur mon blog, sur Scilog. Ça a été fait, et effectivement, on voit une baisse de la complexité qui apparaît. Et donc, c'est encore grâce à la complexité, ici, qu'on a pu valider un modèle assez répandu qui explique l'émergence des structures dans le langage. Voilà, et pour finir, un dernier exemple un peu étonnant, l'étude des croyances aux théories du complot. Alors ceux qui s'intéressent à ça de loin ont vu que très souvent sur les sites conspirationnistes, on voit revenir en boucle et en boucle cette histoire de coïncidence, je ne crois pas, et comme par hasard, et voilà. Et ces gens ont l'air vraiment obsédés par le moindre petit truc, ils sont hyper vigilants, et on se dit, voilà, ceux qui croient aux théories du complot sont en fait hyper vigilants. C'est-à-dire que le moindre petit truc qui colle pas ou qui leur rappelle quelque chose, la moindre analogie, ils vont sauter dessus et ils vont dire ça peut pas être par hasard, c'est la preuve qu'il y a quelque chose de déterministe derrière. Voilà, par exemple, pour les attentats du Thalys, on a, dès le lendemain, je crois, lu un peu partout, ah oui, et comme par hasard, quand il y a quelqu'un dans le Thalys, il y a des anciens Marines dans le train. Voilà, comme si c'était quelque chose de tout à fait exceptionnel qu'il y ait des Marines dans un train. Et comme si ils n'auraient pas pu dire la même chose si ça n'avait pas été des Marines, mais d'autres soldats, ou un prof de karaté, ou que sais-je encore. Bref, il y a cette hypervigilance, et ça a poussé beaucoup de gens, qui ne l'avaient jamais testé cette histoire-là, mais ça a poussé beaucoup de gens à dire qu'un des fondements de la croyance aux théories du complot, c'est le refus du hasard. Ils ont dit, en fait, les gens qui croient aux théories du complot, c'est des gens qui ne croient pas au hasard, qui pensent que rien n'arrive par hasard, ou du moins qui ont tendance à voir, dès qu'il y a la moindre ébauche de structure, la preuve que ce n'est pas par hasard. Eh bien ça, ça peut se passer à plusieurs niveaux, parce que ça peut être vrai au niveau politique, ils peuvent par exemple, il suffit de surestimer le pouvoir de la CIA et du gouvernement pour que ça ait cet effet-là. Si vous pensez que le gouvernement s'occupe de tout dans l'ombre, dans ce cas, ça devient rationnel de voir partout des complots. Mais ça pourrait être aussi, et c'est ça que certains chercheurs avaient en tête, ça pourrait être aussi quelque chose de vraiment très élémentaire au niveau cognitif, un truc de bas niveau, qui serait la perception du hasard. C'est-à-dire, ce serait dans ce cas, vraiment au niveau immédiat de la perception, que ça se passerait, et les gens qui ont tendance à croire aux théories du complot, en fait, auraient ceci de particulier, qu'ils perçoivent dans des suites, dans des choses qui n'ont pas de sens, ils perçoivent très vite des patterns, des structures, et en déduisent que la chose n'est pas aléatoire. Alors il y avait des éléments très indirects pour ça, où on voyait que ceux qui croient aux théories du complot ont plus tendance que les autres à percevoir des visages dans des ensembles de points, vous voyez, comme des nuages, ça c'est de la pareidolie un petit peu. Mais c'est quand même quelque chose d'assez particulier, ça. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a testé cette hypothèse, mais sur un cas vraiment abstrait, élémentaire, donc en restant vraiment testant l'hypothèse sans rajouter de fioritures, sans rajouter des visages, etc. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a montré des suites de pile ou face, et peut-être certains d'entre vous ont participé. Je les remercie encore, j'ai remercié déjà sur Facebook. Je remercie tous les participants de cette étude. Ce qu'on vous a fait dans cette étude, donc si vous vous souvenez, il fallait dire si des suites vous paraissaient aléatoires ou pas. Ça, c'est une manière de mesurer la probabilité subjective, l'aléatoire subjectif des suites, comme tout à l'heure. Et puis, il y avait aussi une série de questionnaires qui devaient mesurer. Donc, on a eu quand même un panel assez large, avec assez peu d'extrêmes, mais enfin, un panel assez large, mesurer votre adhésion aux théories du complot en général. Alors, là, si j'ai l'air de me moquer des gens qui croient trop aux théories du complot, évidemment, les théories du complot, c'est exactement comme ce qui se passe avec la paranoïa, hein, c'est-à-dire que les gens qui croient que tout le monde les déteste sont clairement dans l'erreur, mais de l'autre côté, les gens qui croient que tout le monde les aime sont aussi très clairement dans l'erreur, évidemment. La réalité n'est ni d'un côté ni de l'autre, en l'occurrence. Alors c'est pareil pour les théories du complot. Il est aussi absurde de voir des théories du complot partout que de ne voir des théories du complot nulle part. Et donc quand on mesure l'adhésion aux théories du complot, c'est par une valeur continue, et donc il y a beaucoup de variations sans que ces variations soient pathologiques. Hein. Vous pouvez croire beaucoup plus aux théories du complot qu'un autre et être tous les deux tout à fait dans la norme. En tout cas, on avait donc ces mesures de croyance, d'adhésion aux théories du complot et ces valeurs de probabilité subjective qui nous ont permis donc de tester cette hypothèse. Est-ce que, oui ou non, ceux qui croient plus aux théories du complot vont penser qu'en général, les choses ne sont pas aléatoires ? Eh bien, ce qu'on a trouvé, c'est d'une part que c'est complètement faux, c'est-à-dire qu'on croit beaucoup ou très peu aux théories du complot, en fait, ça ne change absolument rien sur le niveau d'aléatoire de base qu'on donne aux suites, et que d'autre part, ceux qui croient beaucoup aux théories du complot, comme ceux qui y croient très peu, donne également des résultats compatibles et donc rationnels, hein, puisque c'est à chaque fois tout à fait compatible, cohérent et corrélé à ce que donne la théorie formelle de la complexité algorithmique et de la probabilité algorithmique. Autrement dit, ce que vous donnez comme réponse, ça correspond très bien à ce qu'on peut calculer avec la formule de Bayes et la complexité algorithmique. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus sur la complexité algorithmique. J'ai bien conscience que ça n'est pas un thème qui passionne nécessairement les foules. J'espère quand même ne pas vous avoir ennuyé et puis surtout avoir éveillé l'intérêt de certains. Je suis vraiment convaincu que cette histoire de complexité algorithmique, c'est très important en psychologie parce que ça vient boucher un trou en quelque part. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de chaînon manquant. C'était vraiment le chaînon manquant dans toute une théorie qui est la théorie bayésienne. Et vous avez vu avec ces quelques exemples que ça s'applique vraiment à des domaines très différents de la psychologie. Donc il y a encore énormément de travail à faire là-dessus. Voilà, c'est un domaine qui me passionne et qui est, vous avez pu le voir au moins avec les théories du complot, qui est lié à des questions que nous autres sceptiques nous posons régulièrement, à savoir comprendre ce qu'il y a de différent entre ceux qui sont plutôt peu sceptiques et ceux qui sont plutôt très sceptiques. C'est lié au raisonnement, Et là encore, la complexité joue beaucoup dans l'étude du raisonnement. C'est lié aussi à des choses comme l'attention ou les biais probabilistes, où là encore, vous l'avez vu, évidemment, c'est lié, ça donne un nouvel éclairage. Et par exemple, l'histoire des biais, hein, on parlait beaucoup de biais heuristiques auparavant. Maintenant, c'est vu un peu différemment. On va plutôt parler de priors, de probabilités a priori. Voilà. Et donc, peut-être que finalement, tout ce qu'on prenait pour des différences entre personnes, dans la propension à faire des erreurs, eh bien, finalement, c'est seulement des différences dans les probabilités a priori que nous avons. Et ça peut venir parfois tout simplement des informations auxquelles nous avons accès. Là, on rejoint un peu le bayésianisme dont j'avais déjà parlé. Voilà, eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine fois, et sceptiquement vôtre, comme dirait Jean-Michel.